Donc, chers amis, chers camarades, il y a exactement 50 ans, en mai-juin 68, tout le pays était plongé dans la grève générale. Il y avait une remontée de la combativité ouvrière, au moins depuis 1967. Et depuis mars 1968, à l'université de Nanterre, en banlieue parisienne, des étudiants protestataires manifestaient. Ils étaient peu nombreux au départ. Le 2 mai, pour arrêter ce mouvement, la direction fermait la faculté de Nanterre et du coup, un meeting de protestation eut lieu le 3 mai, cette fois à l'université de la Sorbonne, au cœur de Paris. Ce 3 mai, la police intervient violemment, arrêtant 600 manifestants. Son attitude mit le feu aux poudres, des bagarres éclatèrent, très violentes. À partir de là, la révolte étudiante se déploya toujours plus largement à coups de pavés et d'occupations. Le Parti communiste, le plus grand parti d'opposition à l'époque, multipliait les prises de position hostiles aux étudiants révoltés. Son journal, L'Humanité, n'hésitait pas à les calomnier. À longueur d'articles, ils étaient qualifiés de casseurs d'extrême gauche, de faux révolutionnaires à démasquer, qui ferait le jeu du pouvoir gaulliste et du grand capital. Du coup, le PCF était vomi par les étudiants et exclu de fait de leur mouvement. Mais peu importe à la jeunesse, elle est de plus en plus nombreuse à manifester et toujours plus déterminée à résister à la police. Du 4 au 10 mai, les manifestations étudiantes se succédèrent dans Paris. La police gaulliste, formée à la répression lors de la guerre d'Algérie, se déchaîne. Des passants sont matraqués aussi. Dans la nuit du 10 au 11 mai, les affrontements sont violents. C'est la première nuit des barricades. La répression fait plus de 1000 blessés. Suite à cette nuit, devant la violence de la répression vis-à-vis des jeunes, l'opinion bascula du côté des étudiants matraqués. Et qui ne lâchait pas. Car fait incroyable à l'époque, par moment, c'est la police qui a été obligée de reculer face aux étudiants. Des policiers qui partent en courant, cela a beaucoup impressionné. Quoi qu'il en soit, l'indignation était générale. Parents, y compris ceux qui n'étaient pas du tout révolutionnaires, enseignants, travailleurs étaient solidaires de leurs enfants, en colère, qu'ils se fassent tabassé comme ça. Les partis de gauche, PC et PS, avaient prétendu depuis des années que le pouvoir de De Gaulle était tellement fort qu'on ne pouvait rien faire contre lui. Ces étudiants démontraient que finalement, le pouvoir n'était peut-être fort que de notre faiblesse. Les centrales syndicales, l'UNEF pour les étudiants, CGT et CFDT chez les salariés, appelèrent alors une journée de grève et de manifestations pour protester, et ce fut le fameux 13 mai. Mais par son succès énorme, la journée du 13 mai change l'ambiance. Ce jour-là, le pays s'arrête. C'est un raz-de-marée. À Paris, défilé monstre, 1 million de personnes manifestent. Dans les manifestations, des traditions du mouvement ouvrier communiste, qui étaient oubliées, comme les drapeaux rouges et noirs et le chant de l'Internationale, sont réapparus en quelques jours. Les événements de 1968 en sont restés au stade de la révolte. Ils ne se sont pas développés vers une situation révolutionnaire. N'empêche, un trait frappant de mai 68 est la rapidité avec laquelle les idées révolutionnaires ont ressurgi et sont tout à coup devenues à la mode. Toute une jeunesse étudiante et travailleuse s'est tournée vers les idées de Lénine, de Trotsky, de Guevara, de Mao et de Marx. Quoi qu'il en soit, le 13 mai est un tournant. Ce succès est comme un choc qui permet à la classe ouvrière d'entrer vraiment dans la lutte. Le travail est censé reprendre partout le 14, mais le climat a changé. Sans qu'il n'y ait d'appel, la grève est reconduite dans une usine, le surlendemain dans deux, puis ce fut une traînée de poudre. La grève s'étend partout, spontanément. Or, pour la CGT, il ne fallait surtout pas qu'il se passe la même chose qu'avec les étudiants. Et c'est pourquoi sa direction, par peur d'être débarquée, décida de laisser faire la grève et de se mettre à la tête du mouvement. À l'époque, la CGT était de loin le syndicat le plus important. Les appareils CGT et PC se recoupaient largement. Le 17 mai, la direction de la CGT appelle les travailleurs à entrer dans la lutte, là où c'est possible. Quasiment toutes les entreprises furent mises à l'arrêt. Y participent des ouvriers, des employés, des techniciens, coiffeuses, garçons de café, footballeurs, des collégiens de 13 ou 14 ans. Le mouvement était irrésistible. Dès le 20 mai, plus de 10 millions de travailleurs étaient en grève. En étendue, cela dépasse tout ce que la France a connu jusqu'ici. Usines, chantiers, banques, téléphonie, stations-service, trains, tout fut arrêté. Non pas un ou deux jours, mais trois semaines, un mois durant. La jeunesse étudiante fut le déclencheur des événements et son inspiratrice politique avec les slogans que vous connaissez peut-être « Ne perdons pas notre vie à la gagner »,« Soyons réalistes, demandons l'impossible » ou encore « Ne me libère pas, je m'en charge ». Elle exprimait son rêve d'une société et de relations sociales radicalement différentes. Elle disait son désir de libérer la société de l'exploitation et du carcan capitaliste. Elle formulait l'aspiration largement partagée à une société égalitaire, plus juste, plus libre et plus humaine. Mais c'est l'entrée en lutte de la classe ouvrière qui fit basculer la situation, déstabilisa le régime et fit peur à la bourgeoisie. Car contrairement aux étudiants, la classe ouvrière est au cœur de la production, ce qui lui donne le moyen de passer des paroles aux actes. Si elle en a la volonté consciente, ce qui ne fut pas le cas en 1968, oui, la classe ouvrière a la capacité de faire le monde, de refaire le monde, et c'est vrai encore aujourd'hui. La classe ouvrière, les exploités, représentent une force sociale qui n'a pas intérêt à la perpétuation de ce système. Les prolétaires n'ont, disait Marx, que leur chaîne à perdre. De la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, qu'ils produisent des profits et font fluctuer le capital, les travailleurs sont capables demain de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire une autre société. Alors en 1968, quand la grève générale s'installa, avec cette ébullition d'idées révolutionnaires parmi la jeunesse, le régime gaulliste n'eut plus qu'une idée en tête, trouver le moyen d'éteindre l'incendie. Et comme en 1936, le gouvernement se hâta de mettre le patronat et les organisations syndicales autour d'une table pour voir comment remettre la classe ouvrière au travail. En un rien de temps, gouvernement et patronat lâchèrent les augmentations de salaire dont ils avaient répété auparavant qu'elles étaient impossibles, comme la hausse du SMIC de 35%. Ils cédèrent de nouveaux droits syndicaux et furent forcés dans bien des entreprises de réduire le temps de travail. Pour bien des travailleurs, ces avancées n'étaient pas du tout à la hauteur des espérances qu'avait suscité la grève. Mais pourquoi se passa-t-il ainsi? D'une part, le mouvement est resté dirigé, maîtrisé par les appareils réformistes. À travers le récit de Kawa, on va voir comment, dès le début, la direction de la CGT, et bien sûr des autres syndicats, CFDT et FO, tout en se disant pour la grève, se sont directement mis à sa tête. Comme s'ils étaient les chefs naturels, ils ont mis en place une direction intersyndicale avant même le début de la grève, ont pris toutes les décisions importantes, ont découragé les ouvriers de participer à l'occupation de l'usine, suggérant à quoi ça sert d'être si nombreux. Du coup, les occupations qui, en 1936, avaient joué un rôle fondamental dans la mise en cause de la propriété des capitalistes sur les usines, ont été à peu près vidées de leur signification. Les appareils réformistes ont volontairement coupé la classe ouvrière des étudiants, qui étaient alors les plus combatifs, et étaient aussi souvent hostiles au stalinisme et au réformisme en général. Ils savaient que la contagion étudiants, jeunes travailleurs, pouvait être dangereuse pour eux. Ils ont même découragé les grévistes d'aller voir les ouvriers d'autres usines. De fait, après avoir laissé faire le démarrage de la grève, les appareils syndicaux ont plus démobilisé que mobilisé. Et c'est là une première trahison. En faisant à la place des travailleurs, ils ont empêché leur prise de conscience de leur force, de leur capacité et de leur intelligence collective qui se serait révélée s'ils s'étaient mis à organiser eux-mêmes les aspects de la grève, depuis l'organisation du ravitaillement, le service d'ordre, les manifestations, jusqu'à la mise en place de systèmes de soins, la propagande pour la grève et surtout de créer des liens de coordination entre les entreprises. En clair, ça aurait été se forger ses propres organes de lutte. C'est ainsi que la conscience des travailleurs aurait pu faire un grand bond. Au contraire, les appareils syndicaux firent tout leur possible pour étouffer un véritable progrès de la conscience de classe. Les ouvriers, y compris les jeunes qui avaient pris l'initiative du mouvement, s'effacèrent. Après avoir étouffé toute possibilité de développement de la grève par en bas, par la participation vivante des travailleurs, les directions acceptèrent qu'elles soient décapitées. En effet, jusqu'à ce qui a été appelé les accords de Grenelle, il n'y avait pas des grèves dans les usines, mais la grève. Plus d'essence, plus de ramassage des ordures, plus de trains, des coupures d'électricité. Les travailleurs rejoignent un mouvement général. C'était une grève politique. D'ailleurs, il n'y avait pas de revendication, mais un grand ras-le-bol du pouvoir de De Gaulle et de cette vie d'exploitation où on travaillait plus de 46 heures par semaine. Mais après Grenelle, à la fin des discussions au niveau gouvernement, patronat, centrale syndicale, c'était une manière de décapiter la grève. Au moment où ce mouvement d'ensemble commençait à paniquer, le gouvernement, le patronat, la haute administration, les travailleurs devaient se débrouiller pour négocier par entreprise, pour obtenir un peu mieux que Grenelle, cela avec un rapport de force bien moins favorable. La grève générale était transformée de fait en une multitude de grèves particulières, locales. Cela signifiait éparpiller le mouvement, l'affaiblir, abandonner à leur sort les travailleurs des entreprises où le rapport de force avec les patrons est moins favorable. C'était morceler cette grève, unique et inquiétante pour le pouvoir, en de multiples petites grèves. Enfin, les directions syndicales trahirent la classe ouvrière en mettant toute leur influence à faire reprendre le travail en contrepartie de quelques avantages lâchés par la bourgeoisie et son gouvernement. Et nous, lutte ouvrière, dans cette histoire, parce qu'on peut avoir l'air de critiquer les autres, mais nous, qu'avons-nous fait? Nous avons quelques camarades qui ont vécu ce mouvement. Les copains n'étaient pas nombreux avant 1968. Il en fallait du courage et de la conscience pour oser choisir le trotskisme face à un PC stalinien quasiment hégémonique dans la classe ouvrière qui se posait comme un seul représentant légitime. Les deux camarades à mes côtés étaient ouvriers à Peugeot Sochaux en mai 68 et ils vont nous raconter comment ils ont vécu cette grève. Ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est que notre organisation était trop petite pour jouer vraiment un rôle. En même temps, dans les quelques rares entreprises, il y avait eu des comités de grève, des comités élus, représentatifs des ouvriers, permettant que la grève soit menée démocratiquement. C'est parce que des militants révolutionnaires y étaient implantés. On ne sait pas, on ne saura jamais jusqu'où le mouvement aurait pu aller si cette politique avait été tentée plus largement. Si par la présence de militants beaucoup plus nombreux, implantés et déterminés à ce que le mouvement puisse aller au bout de ses possibilités, une fraction de la classe ouvrière avait été en situation de prendre conscience de ce qui se jouait. Cela a manqué. Ce qu'on peut en conclure, c'est aussi qu'il est indispensable pour le courant communiste révolutionnaire d'être bien plus largement implanté dans la classe ouvrière qu'il ne l'était en mai 1968. C'est d'ailleurs le sens de notre action militante au quotidien, notamment dans les usines, tenter de propager les idées révolutionnaires au sein de la classe ouvrière, former des militants ouvriers communistes, demeure, selon nous, une tâche fondamentale. En mai-juin 1968, la classe ouvrière fit une fois de plus la démonstration de sa force. Elle fit la preuve qu'elle était capable de faire reculer un pouvoir aussi solidement établi que celui de De Gaulle. Pour nous, qui sommes convaincus que le monde ouvrier a les moyens de prendre en main la société et de la diriger, c'est quelque chose de formidable. Et avec tous ceux qui ne supportent plus la situation et souhaitent une nouvelle explosion sociale, nous affirmons que oui, il faut un nouveau mai-juin 68.